voit plus trop derrière, mais il y a un sol blanc qui est à moitié mort, donc, mais qui était le plus vieil arbre, toujours le plus vieil arbre d'Arras. Mais il a été atteint d'un champignon, donc il est dépérissant. La petite anecdote, c'est que juste devant nous ici, on a une ancienne piscine. Et un jour, c'est rigolo, quand Thierry en parlait, ils sont rentrés et ils ont vu que leur père avait enlevé la piscine et dedans il a créé un bassin, donc avec d'un côté des nénuphars et de l'autre côté une tourbière. Et là, la tourbière est complètement envahie. Bon, on peut quand même jeter un petit coup d'œil à la tourbière. Oui, on peut passer par là, bon, après, c'est vrai qu'on peut tomber.
Jabo Flora et l'association des amis du jardin botanique Floralpina d'Arras. Son but est de contribuer à faire connaître et perdurer ce jardin créé par Jean-Michel Spa à Arras en 1953. Et ce jardin est riche de 4200 espèces et variétés différentes, dont une importante collection de plantes alpines. Cette association a organisé une visite publique autour d'une thématique « Fabrique ta petite mare ». Reportage réalisé sur place, agrémenté de l'ambiance de la visite et avec des entretiens en compagnie de Thierry Spa, le fils de celui qui a créé ce lieu atypique. Et on écoutera également quelques réactions de visiteurs. Et on commence par une interview avec l'animateur de cette visite.
Bonjour, je suis Christophe Laborde, paysagiste et surtout membre de l'association Jabo Flora. Donc c'est les amis du jardin Floralpina. Et notre objectif, ça a toujours été d'ouvrir le jardin et d'accueillir le public. Le jardin, au départ, était privé. Il appartenait à Monsieur Spa, qui était pharmacien et qui était passionné de plantes alpines en particulier, mais de plantes en général. Et Monsieur Spa est décédé. La maison et le jardin ont été arrachés par la communauté urbaine d'Arras, qui, par ce biais-là, l'ont sauvé quelque part, puisque le jardin est encore présent aujourd'hui. Et on essaie toujours, nous aussi, d'y participer et de lui redonner vie, de refaire des animations et des ouvertures au public, mais qui sont pour l'instant encore en ébauche, je dirais, voilà.
Le but donc de cette visite aujourd'hui, c'était fabrique ta mare toi-même. Donc du coup, on a constaté un petit peu comment ça se passait pour fabriquer une mare. Mais quand on voit l'étendue et la diversité de ces plantes, de ces arbres,
c'est tout ce qui fait le charme de ce jardin, parce que les botanistes, ils venaient beaucoup pour voir les plantes de collection, mais en fin de compte, tout le monde appréciait ce jardin, ne serait-ce que par les ambiances qui s'en dégagent, et le côté serein, calme, très, très original, avec des zones où l'eau est omniprésente, des zones plus sèches au niveau des rocailles, des ambiances très parfois à l'ombre, parfois en plein soleil, donc c'est vraiment des milieux très variés. Et on a essayé de faire des animations aussi en faisant participer d'autres associations, soit des musiciens, des peintres, des photographes. Il y a même Maë qui raconte des contes dans le jardin. D'ailleurs, dans le cadre aujourd'hui, c'était une des animations de l'agenda écologique de la communauté urbaine d'Arras, où là on intervient en tant que bénévole. Et Maë va intervenir à la fin du mois pour raconter des histoires sur le thème des arbres qu'elle a soit recompilées de différents auteurs, soit inventés, et c'est vraiment un voyage aussi extraordinaire. Et il y a également Aurélien qui fait découvrir le jardin du côté plus botanique, avec un jardin sans entretien, en utilisant des plantes couvre-sol ou d'autres modes de gestion qui sont des économies de moyens, et puis de fait d'avoir un jardin vraiment très original et joli toute l'année.
Vous connaissez certainement l'association Musique en roue libre. Je trouve que ce lieu, il est hyper approprié pour des petits happenings musicaux très acoustiques, violoncelle, etc. Ça.
Oui, je pense que potentiellement on peut faire plein d'animations. Alors, nous, on n'est que l'association Jabo Flora. Ouais. Et c'est vrai qu'on a un partenariat privilégié avec la communauté urbaine d'Arras. Et c'est vrai que là, j'aurais pas insister lourdement, mais c'est vrai que le fait qu'il soit intervenu, pour nous, c'était vraiment la solution idéale. Et maintenant, on sent que le projet doit se... Il faut recréer un nouveau jardin. Ce n'est plus un jardin privé d'un particulier botaniste. Donc, il y aura une autre évolution à trouver. Et nous, on s'attache à s'impliquer toujours fortement à ce niveau-là.
Peut-être un petit message à passer, si vous avez besoin de main pour entretenir ce jardin.
Alors c'est vrai qu'on est une petite association, là on n'est plus qu'une dizaine de personnes, 10-15 personnes, mais c'est vrai qu'on aimerait bien monter un peu en puissance et retrouver des gens qui pourraient nous épauler et participer à nos actions. Et alors je ne m'attendais pas à votre question, hein, donc je n'ai pas préparé, mais on est donc Ajaboflora, A-J-A-B-O-Flora, F-L-O-R-A, tout simplement. Il y a le site internet, vous avez toutes les informations. Et n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour découvrir ce que l'on fait et voir comment vous pouvez participer à toutes ces choses qu'on essaye de mettre en route.
Il faut gérer ce jardin. Il y a des plantes qui peuvent paraître peut-être invasives. Vous constatez quand même qu'il y a des plantes qui n'étaient pas là au départ et qui sont arrivées. On pense aux oiseaux qui déposent des graines, etc.
Le jardin, c'est vrai, est en cours d'évolution. Ça fait 2 ans qu'il n'est plus entretenu de la même manière qu'à l'époque de Monsieur Spa, où il y avait vraiment des jardiniers spécialisés. Malgré tout, le jardin dans l'ensemble, pour l'instant, il a bien évolué. Mais on voit que de ci, de là, les noisetiers, les cornouillers, les bouleaux commencent à s'installer et que les choses pourraient très vite évoluer. Et c'est pour ça que nous, on aimerait bien réfléchir avec le CUA quels sont les aménagements à faire dans le jardin pour rendre son entretien plus facile, plus à l'optimiser et en même temps garder toute la richesse des lieux.
J'ai vu même qu'il y avait des kiwis.
Oui.
C'est improbable quand même dans notre région.
Oui, alors maintenant le kiwi est devenu un peu plus commun, on peut le trouver dans les jardineries, mais le kiwi qu'on trouve dans les jardineries est un kiwi auto-fertile, c'est-à-dire qu'il est mâle et femelle en même temps. Donc alors qu'à l'époque où M. Spa avait planté ses kiwis, il y a plus de 40-50 ans, ils n'étaient pas plantés dans la région, on ne savait pas qu'ils étaient rustiques, donc il n'y en avait pas. Et lui, il a dû en planter 4 ou 5, parce qu'il fallait un mâle pour 4 femelles. Donc voilà, donc c'est un peu particulier, c'est une plante un peu plus commune, mais ces variétés à lui sont vraiment très particulières. Et quand on voit la dimension du kiwi, on se rend compte que la production devait être assez impressionnante.
Est-ce que vous avez une plante, un arbre préféré dans ce jardin?
C'est dur de faire un choix, mais moi je dirais que mon arbre préféré, c'est un arbre qu'on ne voit pas trop ici, parce que c'est vrai qu'il y a des liriodendrons, des ginkgos, des séquoias, vraiment des plantes magnifiques, mais il y a un arbre qui est particulier, c'est le hêtre pleureur, donc c'est un hêtre, mais il pousse à l'envers, et donc là vous passerez dans le jardin, vous ne le verrez même pas, et en vous disant c'est un hêtre, vous direz il fallait le voir, et il est très particulier. Mais là, je ne peux pas vous en parler plus parce qu'il vient des faux de Verzy et il y a toutes des légendes, des histoires. Pourquoi les hêtres poussent à l'envers, un peu en forme de tire-bouchon? Moi, je dirais que c'est parce qu'il y a du champagne pas très loin, donc il y avait peut-être un effet. Certains pensent que c'est des ovnis ou des effets très bizarres, mais il y a toutes des légendes et un imaginaire autour de cet arbre qui est quand même assez faramineux. Ce qu'on peut dire déjà par rapport à la création d'une mare, il faut globalement il y a 3 étapes. La première étape, c'est déjà la réflexion. C'est ce que vous faites aujourd'hui. C'est où l'installer, comment la dessiner, comment organiser. Donc ça, c'est une phase qui est importante parce que ça permet de bien préparer les aménagements. Après, il y a la phase opérationnelle, donc comment on la crée concrètement sur le terrain, comment on fait le trou, l'étanchéité, etc. Et puis le dernier point, la dernière phase, c'est quand même c'est aussi l'entretien. Parce que c'est un espace qui est vivant et si on ne fait rien, vous voyez ici on n'a rien fait pendant 2 ans, au début on n'a pas planté les typhas, mais forcément elles étaient à côté, elles sont venues naturellement et on a même eu l'apparition d'algues filandreuses et qui est quand même un problème pour la mare. Et je dois vous avouer, comme je n'étais pas encore venu depuis cette année, j'avais pas vu ce problème là, donc ça sera intéressant d'en reparler avec les services de la CUA pour leur proposer des solutions, améliorer la mare et éviter de se retrouver dans cette situation là. Le point qui est important pour installer la mare, c'est de, déjà la proximité de l'alimentation en eau. Donc on verra après les différentes sources d'alimentation possibles. Alors ici, comme on est dans un jardin qui est assez grand, et Monsieur Spa avait un système, comme il y a le cours d'eau qui est juste à côté, quoi, les douves, il avait un puits, et même quand l'eau était très basse, il y avait un système de pompe pour pouvoir arroser le jardin. Donc la localisation, nous on ne s'était pas posé la question, et c'est vrai qu'aujourd'hui on se pose la question où mettre la mare. Bah, la logique qu'on aurait peut-être plus, c'est bah, on peut récupérer les eaux pluviales de la toiture, de la maison, des serres, et donc on installera une réserve d'eau qui permettra d'alimenter après par la mare, par écoulement naturel. Donc ça c'est l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de savoir où est-ce qu'il y a des possibilités d'approvisionnement en eau et pour localiser, d'avoir également un espace qui est quand même assez ensoleillé. Donc là on est près d'un cèdre bleu qui est pas trop grand, donc ça va encore, mais parce que l'idée c'est quand même de profiter du soleil, même si ça favorise les algues et différentes plantes qui sont très prolifiques et qui peuvent saturer l'espace. Malgré tout, c'est un les mares, pour bien se développer, ont besoin d'un espace plutôt ensoleillé. Et en plus, bon, là, c'est un arbre persistant, ça va, parce que quand on a trop de feuilles qui tombent dans la mare, surtout quand c'est du peuplier, ça s'accumule, ça fait de la vase, etc. Donc c'est vraiment un gros problème. Alors après, il y a un problème de réglementation. Alors moi, au début, ça, je ne faisais pas trop attention, mais quand j'ai travaillé avec l'association des mares du Pas-de-Calais, ils ont mis l'accent sur le fait que la réglementation au niveau des mares est une réglementation, et il faut qu'on soit à 35 mètres des habitations normalement. Alors après, ça dépend ce qu'on appelle mare et ce qu'on appelle bassin d'agrément. Donc c'est voilà. Mais je pense que pour une mare assez conséquente, là c'est une contrainte qu'on est vraiment obligé de prendre en compte, parce que il y a une réglementation qui est assez assez importante.
Qu'est-ce que vous avez pensé de cette visite qui n'est pas terminée encore hein, mais...
Bah, c'était intéressant. Nous, on veut vraiment mettre une mare chez nous, donc on a pas mal de terrain. Et du coup, on venait prendre des conseils un peu et avoir des réponses à quelques-unes de nos questions sur le coin, en fait, vu qu'on habite à Mercatel, là, on est à Arras. Donc, avec la faune d'ici, avec l'équilibre écologique qu'il y a ici, quoi. Pas avoir des réponses sur Internet qui ne correspondent pas forcément au lieu où on est ici.
Voilà. Mercatel, on peut rappeler où c'est exactement ?
Mercatel, c'est au sud d'Arras, donc il y a Borin en dessous, et là, c'est la première ville après Borin, au sud d'Arras.
Bon, et vous, les enfants, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette visite ?
Bah, elle est super cool, franchement. En plus, on va pouvoir mettre des libellules et des nénuphars dans notre mare, ça c'est trop cool. Justement, il a dit qu'on
est... Et des grenouilles ?
Ouais, pourquoi pas ?
Ouais, mais ça, il va falloir attendre qu'elles viennent.
Alors, est-ce que vous avez repéré des petits animaux justement qui venaient dans cette mare ou pas ?
Moi j'ai repéré deux ou trois tritons.
Tu connais un peu les tritons ? Comment ça marche ? Comment ça fonctionne ?
Non.
Bon.
Moi j'ai vu une grenouille.
Non, c'était un triton.
Non, j'ai vu une grenouille, je t'ai dit.
Et vous monsieur alors du coup ? Le papa, qu'est-ce que vous avez pensé de cette visite ?
Eh bien franchement, très intéressant. Effectivement, moi ça me donne bien envie d'en faire une. Après, comme dit monsieur, je pense que c'est travail de Romain, c'est l'expression, parce que on a déjà creusé quelques trous à la maison et ouais, c'est franchement une tannée quoi. Mais bon, après, c'est vrai que le résultat, il est sympa. Niveau faune, flore, c'est... Puis là, on est à côté depuis tout à l'heure, franchement, on est bien, c'est agréable.
Ah oui, c'est zen, hein ?
C'est zen, ouais, tout à fait.
C'est vraiment pas mal quoi, pour la biodiversité, justement. Puis le fait que c'est fermé au public, ça peut se développer naturellement, quoi.
Alors j'ai vu que vous aviez capté qu'il y avait des tritons dans la mare, vous les avez vus ?
Oui, je les ai vraiment vus quoi, deux tritons là, qui se baladaient quoi justement. Puis bah, madame là elle vient d'en revoir. Hein.
C'est important pour vous, est-ce que ça vous permet peut-être éventuellement si vous avez un jardin de créer une mare ?
Bah, c'est toujours intéressant, mais moi ce qui me fait toujours peur aussi c'est les moustiques quoi aussi, parce que moi sinon après... Ça peut être pas mal, un petit truc, oui.
Bah, elle est belle, la mare, malgré le manque d'entretien.
Alors, quand tu dis manque d'entretien, qu'est-ce que tu entends par là ?
Parce que il y a beaucoup d'herbe sur les côtés, mais malgré tout ça, elle est quand même belle. Et c'est agréable de voir la nature et tout, avec les insectes qui se baladent et les animaux qui se développent aussi dans la mare.
Le jardin dont mon père était pharmacien, il était passionné par la botanique. Il avait besoin aussi de trouver, quand il s'est installé rue Gambetta à Arras, un espace pour y mettre des ruches, parce qu'il il faisait de l'apiculture. Et donc il y a eu ce grand terrain en vente qui était beaucoup, beaucoup plus grand que ce dont les abeilles avaient finalement besoin. Et donc il a pensé, lui qui aimait beaucoup les plantes, y installer un jardin plutôt botanique, puisque lui c'était vraiment la botanique et plus que le jardinage, je veux dire, qui l'intéressait. Et il s'est passionné pour les plantes de montagne du monde entier, donc il est allé jusqu'à, comment dirais-je, inventorier dans son jardin plus de 3600 espèces différentes de plantes de montagne. Bon, il y en a quand même pas mal qui ont disparu depuis son décès, parce qu'il fallait vraiment être un spécialiste pour pouvoir entretenir ses rocailles. Mais l'essentiel, les grands arbres, les collections de pivoines, différentes plantes qui ont bien tenu le coup, sont toujours là et font le charme de cet espace.
Cette mare, il faut l'entretenir. Donc on a eu des explications un petit peu. C'est compliqué parce que chacun peut créer une mare dans son jardin, mais il y a des règles quand même à respecter.
Oui, alors je pense que la règle numéro un, c'est pas une question de surface, c'est surtout une question de pente de berge. Faut pas faire des mares qui ont des pentes abruptes, sinon on va pas avoir d'intérêt au niveau de la faune. Les batraciens vont pouvoir y aller, mais pas pouvoir ressortir et finalement vont risquer de mourir. Des berges en pente permettent vraiment d'y installer des plantes vraiment de bord des eaux, et donc ça va donner un plaisir supplémentaire. Et puis après, bon, il y a le côté de l'étanchéité. Alors soit, comme dans la nature, il y a des mares qui s'assèchent parce qu'il y a l'infiltration, il y a l'évaporation, soit on essaye d'avoir une mare relativement étanche, et là, avec des systèmes de bâches, de géotextile, on peut réussir à avoir des mares en permanence en eau, avec quand même faire attention à quelque chose, c'est qu'il y a quelques plantes aquatiques comme les massettes, les typhas, qui sont très robustes et qui vont s'implanter, et le rhizome va grandir, il risque de percer donc la bâche, et donc si on veut ensuite arracher les typhas, on emmène la bâche et donc la mare n'est plus étanche. Sinon, une mare bien équilibrée, avec donc une faune qui va permettre par exemple de réguler la population de moustiques, c'est pas très très compliqué à entretenir, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut laisser faire un petit peu la nature, et encore une fois, je reviens, pour laisser faire la nature, il faut vraiment penser au fait qu'une mare, c'est pas une piscine, donc il faut vraiment que les berges soient en pente douce.
Qui dit mare dit forcément des habitants, des insectes, je pense aux dytiques, qui sont en voie de disparition, hein, parce qu'on ne les voit plus beaucoup. Les batraciens également, mais les oiseaux aussi qui viennent picorer. Et puis en même temps, des poissons.
Je pense que les premiers à venir, ce sont les insectes, les gérisses, les insectes qui ont la capacité de se déplacer à la surface de l'eau. Et puis assez rapidement, finalement, on peut voir apparaître des batraciens, en particulier les tritons. Ici, on a le triton alpestre qui est quand même relativement commun. Et puis après, une fois qu'il y a de la végétation qui sort de l'eau, par exemple bon, les roseaux, des massettes, des choses comme ça, on peut avoir la surprise de voir apparaître différentes espèces de libellules. Il y en a beaucoup, hein, des toutes petites, comme les agrillons, jusqu'aux grandes, comme l'anax-empereur, par exemple. Et ensuite, alors, dans les insectes qui vivent plutôt, je dirais, au fond de l'eau, comme les dytiques, des choses comme ça, là, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Maintenant, le dytique, c'est quand même un redoutable carnassier. Alors, ce qu'il faut éviter, si on veut avoir des batraciens qui vont pondre dans l'eau, il faut éviter les poissons. Si on choisit de mettre des poissons dans une mare, on risque pas d'avoir beaucoup de batraciens.
Et ben voilà, on a toutes les informations pour fabriquer sa propre mare. Et ben, je vous remercie beaucoup Thierry Spa.
Je vous en prie, c'était avec plaisir.
Pour finir, la construction de cette mare, donc on a mis la géogrille et on a mis la terre végétale et on a planté quelques touffes autour. Bon, on voit surtout il y a des carex qui se sont bien développés. Il y a une primevère qui est là-bas en fleurs. On n'avait pas mis trop de plantes différentes. Puis après, tout le reste, c'est venu spontanément. Et ça, c'est ce qu'on voulait essayer de développer.
Géranium botanique qu'on avait planté. Géranium noirâtre.
Qui est là-bas en violet.
Et puis, qu'il y a un géranium des rives à fleurs blanches qui est là.
Voilà. Un géranium ?
Ça, c'est un géranium. Géranium botanique.
D'accord. Voilà.
Le géranium de nos balcons, en fait, c'est pas ça. Le nom scientifique, c'est Pelargonium, c'est ça. Voilà, ça, c'est un géranium sauvage. Géranium rigulare. Rigulare. Alors là, on voit déjà la forme des feuilles. C'est typique des géraniums botaniques.
Et si là, par exemple, il y a un hérisson qui se retrouvait au milieu de la mare, il arriverait à tourner sur la terre ou pas?
Il n'y a pas trop de soucis. Le principal, c'est que la rive, elle soit en pente douce. Mmh. Qu'il n'ait pas trop d'efforts pour remonter. C'est la même chose pour les grenouilles, pour les tritons. Il faut toujours une rive en pente douce, pas une rive à brut. Sinon, en particulier les grenouilles, les tritons et tout, ils vont aller dans l'eau, mais ils n'arriveront jamais à remonter. Ils vont finir par se noyer.
Mmh. Et ce qu'on voit au niveau, parce qu'on parlait tout à l'heure de la gestion de la mare, ce qu'il faut faire, un des éléments ici qu'il faudrait, intervenir, c'est enlever toute la végétation aussi. Ligneuse qui s'installe un peu tout autour, parce que souvent le sol va apparaître, le bouleau,
le
cornouiller, donc il y a, ça c'est vraiment, parce qu'à partir du moment qu'il s'enracine, surtout que là on a mis cette géogrille, si les racines se mettent dedans pour l'enlever, ça va être délicat, donc il est vraiment important de ne pas laisser la végétation ligneuse s'installer, ça c'est vraiment le...
Reportage réalisé lors d'une visite du jardin botanique Floralpina d'Arras, organisé par Ajabo Flora, association des amis de ce jardin botanique.